Bonjour et bienvenue sur Cameo, la plateforme d'entraide pour multipotentiels et slasheurs. Alors, comme souvent, nous vous présentons par le biais d'un témoignage une personne ayant ce profil de touche-à-tout afin de parler de sa vision de la multipotentialité, ses ressentis, son parcours, ses passions, ses méthodes d'organisation et bien d'autres choses.
Aujourd'hui, on vous présente Yann avec qui nous avons travaillé quelques années. On l'a toujours vu faire plein d'activités et c'est vrai que nous n'avons jamais abordé ce sujet avec lui. Il a fait quand même pas mal de choses, non ?
Oui, alors informaticien, entrepreneur, musicien, photographe, organisateur d'événementiel, food cuisine asiatique à laquelle il s'est formé, enseignant de karaté, motard passionné. Rien qu'avec ça, je pense que vous avez un aperçu du personnel.
Il nous parlera de son parcours, de ses techniques d'organisation dont certaines viennent de son métier et qu'il applique au quotidien dans plein de domaines, de l'importance de faire les choses par passion et non pas par besoin et de sa volonté d'être organisé pour pouvoir se dissiper sereinement.
Vous allez aussi découvrir sa positivité et son approche de la vie, fortement imprégnée des philosophies orientales. Allez, on ne vous en dit pas plus si on vous laisse découvrir Yann dans cette interview, et n'oubliez pas de nous faire vos retours sur ce qui vous a remarqué le plus.
Bonjour Yann, bienvenue sur le podcast.
Salut, salut.
Est-ce que tu pourrais te présenter ?
Bien sûr. Eh ben, je m'appelle Yann, j'ai 35 ans, je crois qu'il faut que je calcule, mais je crois que c'est un truc comme ça. J'habite dans le Var, j'ai un parcours un peu varié, et parmi ce parcours, j'ai eu la chance de travailler dans un endroit où j'ai rencontré des gens formidables, et c'est pour ça que je pense qu'on est en contact aujourd'hui. Et je pense que comme pas mal de gens qui vont écouter ce podcast, je pense que je peux me considérer comme un pluridisciplinaire, un touche-à-tout, on peut y mettre un peu le nom qu'on veut, mais effectivement, il y a beaucoup d'activités, et j'essaye de mettre un peu d'ordre dans tout ça.
Et justement, est-ce que tu peux nous parler de tes activités,
Mes activités professionnelles?
On va commencer peut-être par les professionnels.
Oui, voilà. Actuellement, combien tu as d'activités?
Alors, à aujourd'hui, ce qui remplit mon frigo, concrètement parlant, c'est je suis ce qu'on appelle un portfolio manager. Je suis responsable, dans une grosse structure, d'accompagner des équipes sur un projet de refonte d'un data center vers des technologies cloud. Et je gère tout ce qui est... C'est un poste qui est très administratif. C'est une volonté de ma part d'avoir pris de la hauteur, alors que d'habitude, je suis quelqu'un qui était sur le terrain. Donc, je faisais vraiment de la technique pure, donc du réseau, du Linux, etc., etc. Et là, j'avais besoin sur mon CV d'une couche plus administrative. Donc, ce rôle de portfolio manager fait que je suis amené maintenant à faire de la gestion de projet, du pilotage, de la gestion de portefeuille financier, de portefeuille de services, de macro-planification des équipes, d'accompagnement sur l'organisation de travail, d'orientation à prendre, de comité de pilotage, etc. etc. Donc, ça, c'est mon activité salariée. Donc, ça me permet... Je suis quand même dans une niche qui est quand même relativement confortable. Je le reconnais. Donc, je gagne relativement bien ma vie. Et je suis dans un cadre de travail qui est quand même pas dégueu. Hein. À Sophie Antipolis, on est quand même dans un cadre sympa. Hein. On n'a pas le stress des grandes villes comme Paris, Marseille, etc. Ça, je ne me verrais pas du tout vivre dans ce genre d'endroit. Donc, ça, c'est pour mon activité salariée. Et à côté de ça, mes activités, j'ai un peu beaucoup de choses. Donc, je suis également auto-entrepreneur. Donc, je suis en train de me chercher, on va dire plutôt, je suis en train de monter un peu, essayer de trouver le plan marketing, le modèle économique, etc., sur du consulting, sur tout ce que je suis capable d'apporter, donc que ce soit du cloud computing, des refontes d'infrastructures, du cost saving, de l'analyse de gestion financière, des besoins en informatique des entreprises, etc. Et après, à côté de ça, plein d'autres activités alors qui me tiennent à cœur, que je fais bénévolement. Donc je suis enseignant, je suis instructeur fédéral de karaté, donc j'enseigne le karaté à Draguignan aux enfants. Ça je le fais bénévolement parce que pour pouvoir être salarié il faut avoir un diplôme plus élevé que le mien et ça nécessite une formation de 1 an ou 2, etc. Et donc retourner en cours pour au final donner 2 cours de karaté dans la semaine, c'était pas intéressant, donc pour le moment je fais ça bénévolement. Qu'est-ce que je fais d'autre encore? J'enseigne la moto, mais de manière pareille, bénévole et complètement informelle. Hein. Quand je dis ça, autant le karaté, il y a une structure associative, autant la moto, c'est complètement entre potes, entre guillemets, où en fait, le but, c'est, vu que je fais énormément de moto, que je suis dans une communauté avec beaucoup de gens qui me suivent, etc., je me rends compte que beaucoup de jeunes passe la moto, parce qu'on est quand même dans une région où c'est cool de rouler en moto, et passe le permis souvent, soit parce que les potes sont motards, donc je vais faire comme les potes, et donc je passe le permis et je vais rouler avec eux, soit c'est un délire perso, et j'ai envie de me faire plaisir et de rouler seul ou avec la copine, point. Dans un cas comme dans l'autre, le jeune, il a son permis, il achète sa moto, son équipement, il est content, sauf que du coup, il arrive sur la route, et malgré le fait d'avoir passé le permis, je suis désolé, quand tu as le permis, tu ne sais pas conduire. Tu viens d'arriver, tu ne sais pas conduire. Et le truc, c'est que le groupe de potes avec qui il veut aller rouler n'auront pas forcément la patience ou la pédagogie pour prendre le petit jeune sous son aile et dire « Allez, viens, je te montre un peu, etc. » Et quand tu es tout seul, tu as le risque, tu es tout seul et donc d'apprendre des conneries. Donc, j'organise régulièrement en fait, des sessions pédagogiques où moi, de mon côté, je vais me former auprès des gendarmes, la gendarmerie du Var. Là, je me forme avec eux sur les trajectoires de sécurité, etc. Donc, je suis en relation... En collaboration avec eux, je me forme et après de mon côté, j'enseigne ça aux petits jeunes sur du temps perso. Donc pareil, bénévolement, on va rouler ensemble et vraiment pédagogie avec méthode pédagogique qui vont avec. Donc on filme, après on montre les vidéos, je montre là où ça va, ça va pas, et après on reprend la route et on recommence pour améliorer les choses, rouler derrière moi, etc. Le but étant d'apprendre à rouler en sécurité, pas faire de la performance, on n'est pas sur circuit, ça m'intéresse pas. Et donc, justement, ce que j'enseigne va à l'inverse de ce qu'on t'apprend en circuit. Moi, j'apprends à rouler sur route. Et sur route, c'est du danger tout le temps. Il faut être capable de le gérer, etc. Et ça, ça s'apprend. Mais si tu as quelqu'un pour te l'enseigner, c'est encore mieux, quoi. Donc ça, c'est pour l'aspect moto. Après, qu'est-ce que j'ai comme activité aussi en ce moment, c'est la cuisine. Alors, aussi bien à table qu'en fourneau. Donc, de temps en temps, j'organise des cours de cuisine asiatique principalement. J'ai commencé par la cuisine japonaise, après je me suis mis à la cuisine vietnamienne. On organise de temps en temps des ateliers en fait, où j'apprends aux gens à tout faire soi-même. Donc, arrêtez d'acheter des nems surgelés, c'est facile à faire, vous pouvez le faire. Même les sauces pour tremper les nems, vous pouvez la faire vous-même, c'est facile. Et après, plein de cuisines asiatiques, donc les sushis, les machins, enfin bref, je peux vous faire la liste. Donc j'enseigne ça, je partage du coup effectivement après mes expériences, mes coups de cœur, mes petits trucs, etc. sur la page Un jour un kilo sur Facebook. Et ça m'a permis de tisser également un réseau et d'être en contact avec pas mal de personnes qui ont vraiment leur place dans le paysage gastronomique régional. Et ça m'a permis du coup d'être, je suis depuis la deuxième année consécutive, je crois, je suis président du jury du Food Truck Festival au Château de Berne. Donc pas mal de choses aussi sur, côté cuisine. Donc ça, c'est actuellement la majorité, on va dire, de mes occupations. Ce qui fait quand même déjà pas mal, sachant que j'étais obligé également d'en arrêter parce que par manque de temps. Quand on bossait ensemble, vous savez que moi j'étais à fond dans la photo, je faisais beaucoup de photos de concerts, je faisais beaucoup d'urbex, j'avais fait un peu d'événementiel, mais c'est trop contraignant, je trouve. Je préfère vraiment le côté libre et artistique. Il y a eu une période de musique où j'avais fait du slam, j'ai sorti un album, je faisais des concerts, etc. Donc j'ai sorti mon album il y a 10 ans maintenant. Et d'ailleurs, hier soir, il y a le guitariste qui a fait les solos de mon album qui m'a recontacté parce qu'il aimerait bien qu'on me planche sur le deuxième. Et vu que le deuxième, en fait, est déjà écrit et composé depuis 10 ans maintenant, j'ai jamais eu la foi, l'envie, je sais pas, de remettre ça sur le sujet. Peut-être que ça va être un prochain sujet à venir, je sais pas, on verra. Fut un temps, je tenais une web radio, j'ai également une association qui s'appelle Numéart, qui est domiciliée à Fleyosk, qui est en fait la rencontre entre Numéart, numérique et artistique, où on avait à la fois le pied dans un réseau associatif local artistique, que ce soit donc musique, dessin, art, photo, etc. Et de l'autre côté, pas mal de contacts dans le domaine des technologies. Donc souvent des petits jeunes, ça c'est surtout de l'époque où j'étais enseignant dans un Greta, j'enseignais réseau informatique, et j'ai pas mal de monde autour de moi, des petits jeunes qui avaient des compétences en technologie, mais qui ne savaient pas trop quoi faire de leur vie, qui cherchaient du boulot, etc., etc., et qui tuaient le temps, on va dire. Et de l'autre côté, moi j'ai des artistes qui ont des besoins justement pour communiquer, pour faire un site internet ou une vidéo, etc. Je dis les gars, toi tu sais faire des choses, mais tu ne sais pas quoi en faire, vous avez besoin de compétences, mais vous ne savez pas faire, je dis, mettez-vous ensemble. Il n'y a pas forcément d'argent à la clé, mais au moins vous faites des trucs. Et ce sera bon pour l'un comme pour l'autre, sur le CV, sur le portfolio, etc. Donc on a monté cette structure en 2003. Et depuis, ça tourne toujours. Ça tourne toujours avec plein d'autres projets qui sont greffés derrière, sur des projets de e-learning qu'on a mis en place pour Alors, une partie pour la sécurité civile et une autre partie pour, je crois, c'est les Greta, un truc comme ça. Mais ça, c'est plus la partie de mon associé. Moi, je suis vraiment la partie gestion-administration du serveur qui porte tout ça. Et dessus, je m'occupe aussi de la retransmission sur le web en streaming d'une radio locale de Fréjus-Saint-Raphaël qui s'appelle Mosaïque FM. Et à l'époque, j'avais également la retransmission d'une radio qui s'appelait Kiko Radio, qui était une radio reggae qui n'existe plus maintenant.
Ok, c'est complet.
Ouais, un peu beaucoup de choses, quoi.
Ouais.
Après, il y a sûrement d'autres trucs, mais ça ne me vient plus, là.
Ouais, ben, déjà maintenant, pour ce que tu fais, actuellement, ce que tu as fait, on est déjà sur quelque chose de très, très complet. Comment ça s'organise au quotidien? Parce que là, il y a beaucoup d'activités, donc je pense qu'il y en a certaines que tu dois faire, comme tu disais, en tant que bénévole. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours senti de devoir faire? C'est quelque chose qui s'est organisé? Est-ce qu'il y a eu des périodes très, très désorganisées?
C'est le mot « devoir faire », il résonne, parce que c'est vraiment ça. J'ai toujours été quelqu'un de très altruiste, de généreux, d'avoir envie d'aider, de partager et de partir du principe que tout ce que je sais, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai jamais compris pourquoi ce que je sais faire, moi en tant qu'individu, mes connaissances, mes compétences, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi les autres ne savent pas le faire. Parce que ça me semble tellement simple et logique, que ce soit du technique ou du autre, ou peu importe, que je ne comprends pas pourquoi les autres n'y arrivent pas. Et donc, je me dis, mais ça me coûte quoi à moi, en fait, au final, le peu que je sais, entre guillemets, de le partager aux autres. Donc, pour ça, quand tu as dit devoir, ça a tilté vraiment en moi, parce qu'effectivement, c'est vraiment ça. C'est le sentiment de dire, je me dois de pouvoir aider. Je suis incapable de dire non. On me demande mon aide, ouais, ok, cool, vas-y, viens, je te montre, c'est cool, etc. Et donc, c'est vrai, c'est cet aspect de devoir. Après, du coup, comment on s'organise? Ben, c'est là où il faut mettre les priorités. Quelles sont mes priorités personnelles, que ce soit d'un point de vue purement matériel. Donc, en gros, comment je remplis le frigo, parce que les charges, quand elles tombent, il faut bien les payer, normal. Hein. Et comment aussi, ma satisfaction aussi personnelle à moi. Parce que bosser pour bosser, si moi, derrière, ça ne me fait pas kiffer, je vais y aller à contre-cœur et franchement, je n'irai pas. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé d'aller sur des boulots pourtant même lucratifs, machin, etc. Et ça ne me plaisait pas. Bah, 2 mois après, je me barrais parce que non, je suis désolé, ça ne me fait pas kiffer, j'arrête. J'ai déjà un jour complètement fait un 180 degrés sur ma carrière où j'étais dans l'informatique. Pour pouvoir continuer l'informatique, il fallait que je déménage ailleurs dans des grandes villes et je ne voulais pas. Donc, du coup, j'ai tout arrêté et je suis parti faire des sushis pendant 1 an et demi parce que ça me faisait kiffer sur le moment. Et voilà, donc, pas avoir peur de changer. Donc, jamais faire les choses à contre-cœur. Et donc, pour revenir à ta question, comment je m'organise? Mon agenda est mon meilleur ami. Je suis très carré. C'est-à-dire que j'ai toujours eu des problèmes de mémoire. Alors, je me suis toujours demandé si c'était vraiment des problèmes de mémoire ou si c'est le fait justement de vouloir manipuler trop d'informations simultanées qui fait que des fois après j'oublie des choses parce que la machine à la fin peut surchauffer. Donc du coup j'ai pris l'habitude de toujours tout noter. Je note absolument tout, que ce soit donc des rendez-vous dans des agendas, etc., etc., ou que ce soit des simples prises de notes. Enfin, tout est noté, donc je m'organise comme ça et après j'ai appris à classer, à gérer, à ordonner, etc. Après c'est de la déformation personnelle. Étant chef de projet, c'est mon boulot de gérer ce genre de situation, donc j'ai mes méthodes pour ça, au point où, pour la petite anecdote, à mon boulot, là, on est en train de mettre en place la méthode agile, je me suis formé sur l'agilité, donc s'il y a des développeurs ou autres qui nous écoutent, ils connaîtront sans problème, et parmi les outils pour gérer la méthode agile, on a une méthode qui s'appelle le Kanban, c'est une sorte de tableau, en fait, où on va mettre des post-it qu'on va faire avancer par état, donc le projet machin, il y a un statut à faire, un statut en cours, un statut fait, un statut terminé, archivé, peu importe, et après tu vas mettre des post-it, tu vas mettre ta tâche, voilà, tâche, faire la page, machin chose, que tu mets dans les idées, après quand tu commences à bosser dessus, tu le mets en cours, etc., etc. Et je me suis tellement imprégné de cette méthodologie que en ce moment, je suis en train de planifier en fait la réfection de ma salle de bain. Je suis en train de voir pour tout casser, je veux faire une douche, je veux carreler, machin, etc. Et ben, le projet refonte de la salle de bain, je l'ai fait sur un Kanban. Et donc, j'ai mis les tâches, les rôles, qu'est-ce qui est imputable au plombier, qui sera imputable à l'électricien, quels vont être ses rôles, qui va être dépendant de quoi, parce qu'on ne va pas pouvoir carreler la salle de bain si le plombier, au préalable, il n'a pas monté le bac d'évacuation, enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc, tu vois, comment je m'organise? En utilisant en fait, des outils qui correspondent en fait, à mes besoins, à mon usage, que j'ai appris à maîtriser d'un point de vue professionnel et qui me servent après dans ma vie privée. Et voilà, et le fait de tout noter, d'avoir une vision d'ensemble, bah, fait que ça me permet de ne pas me dissiper. Ou alors, non, c'est pas le bon mot. Ça me permet de rester ordonné et efficace sur ce que je suis en train de faire, que ce soit professionnel, personnel ou autre, tout en me permettant justement de me dissiper sans que ça impacte justement la productivité de mes projets, professionnels, personnels, etc. Parce que m'interdire de me dissiper, de dire « Attends, ça c'est cool, juste là, je vais aller tester ça, machin, etc. » M'interdire ça, c'est m'interdire de vivre. C'est un lieu en cage. Si tu me dis « Voilà, tu bosses là-dessus et tu ne fais rien d'autre, je vais péter un câble et je vais défoncer les murs, ce n'est pas possible. » J'ai besoin de toucher tout et n'importe quoi et de partir dans tous les sens parce que c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je suis et il m'a fallu du temps pour le comprendre, pour l'accepter et surtout pour le gérer. C'est être capable de se laisser partir dans ses folies sans que ça te détruise au final sur ce que tu es en train de mettre en place, sur ton socle, sur ce que tu construis d'un point de vue professionnel, pour ta vie du quotidien, etc., etc. Et d'un autre côté, voilà, c'est trouver l'équilibre en fait entre la sécurité de ce que je suis en train de construire maintenant et la folie dont ma personnalité a besoin pour s'épanouir. Il y a un curseur à mettre à un endroit et pas se laisser à la fois enliser sur le côté très pragmatique ou non plus se laisser embarquer dans le tsunami de la folie créatrice où l'un pourrait empêcher l'autre. Et l'idée, c'est d'arriver vraiment à concilier les deux. Et pour ça, ben, je pense que déjà, il faut, un, en prendre conscience, deux, l'accepter, et trois, après, ben, trouver les méthodes pour pouvoir trouver cet équilibre. Et après, quand tu l'as, franchement, tu peux faire tout et n'importe quoi. Là, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit ce que je faisais en ce moment, et encore, je t'ai dit les projets que j'ai arrêtés, etc., mais juste ce que je fais en ce moment. Et ben, dis-toi que malgré tout ce que j'ai en ce moment sur le feu, et ben, j'arrive à trouver le temps de me faire chier. Et franchement, ça fait du bien, et je te jure que ça fait du bien. Avoir des moments à rien foutre, à juste se poser dans le canapé, à se mater une série à la con ou un truc comme ça, ça fait trop du bien. Et voilà, malgré le fait d'avoir plein d'activités, je pense que c'est aussi primordial aussi d'être capable de s'accorder un moment, une heure, deux heures, une demi-journée, dans la semaine, dans le mois, peu importe, mais s'accorder un moment où on se pose le cul dans l'herbe, on profite du vent sur le visage, on regarde le soleil, enfin, être capable aussi de profiter de tout ça, quoi. Parce qu'avoir la tête dans le guidon, dans le guidon, dans le guidon, au bout d'un moment, faut aussi prendre le temps de regarder le paysage, quoi.
C'est très très bien. Bah, en plus, ça rejoint pile poil ce que nous, on aimerait mettre en place avec Cameo et qu'on essaie de mettre en place, c'est justement cette côté de s'accepter et de pouvoir livrer justement des techniques d'apprentissage. Donc sur ça, on va y revenir. Moi, j'avais une question à te poser. Quand est-ce que tu as accepté? Tu t'en es rendu compte et que tu as accepté? Ça a été un processus qui a été long, court? Ça a été simple ou douloureux?
Je pense que un des premiers déclics, ça a été la période en fait où j'ai sorti mon album. Quand j'ai fait mon album, en fait, le contenu de l'album, c'était en fait le fruit d'une période de dépression. Vraiment, ça allait pas. J'étais au fond. Il fallait que je me vide le cerveau. Et déjà, on va dire, j'ai réussi à retrouver la paix après avoir vraiment exploité à fond cet exutoire. Ensuite, il y a eu les phases, j'ai envie de dire, d'essai, de tests, d'identification en fait des différentes, ce que je considérais comme passion au début, juste voilà, dire attends, je pars là-dedans, etc. Et après, ben, arriver à se canaliser aussi, à toucher, à tester, à revenir, etc. Et ben, en fait, j'ai envie de dire tout simplement, c'est en prenant le temps, en prenant de la patience, en acceptant que l'inconvénient dans notre génération et en plus, dans le genre d'individu qu'on est, etc., c'est qu'il faut absolument que tout aille très vite, tout le temps, très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, tout le temps. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas. On va se brûler les ailes au bout d'un moment. Donc, je pense qu'une des premières choses aussi, c'est d'apprendre la patience. Voilà. C'est très dur quand tu as envie de faire plein de choses en même temps, parce que justement, c'est que tu n'es pas patient quand tu es comme ça. Mais effectivement, je pense, dans un premier temps, c'est d'apprendre la patience. Et que tu aies non plus envie d'aller t'essayer, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais t'essayer dans un mouvement, donc que ce soit un truc artistique, culturel, professionnel, peu importe, que tu le fasses parce que tu as envie de le faire et pas parce que tu en ressens le besoin. Alors la nuance, elle est un peu spéciale, un peu fine, mais voilà, de faire les choses par envie, non par besoin. Parce qu'au début, en fait, c'était ça. Moi, c'était par besoin. Si je voulais absolument tout essayer, tout faire, que ce soit voilà, la musique, la web radio, les sushis, la guitare, le machin, etc., etc., c'est qu'il fallait un besoin, parce que je me cherchais. Ah, machin, mais en fait, je suis qui, je fais quoi? Parce qu'en fait, je teste un truc, mais en fait, j'en fais le tour, je me fais chier, je pars sur autre chose, etc., etc. Et c'était un besoin. Ce besoin, ben, au final, je me rends compte avec le temps que c'était parce qu'il y avait, un problème d'identité, un problème de confiance en soi, un problème de patience, un problème, au final, de pas savoir au final, ben, qui tu es, qu'est-ce que tu fous là, etc., etc. Et d'arriver déjà, voilà, à identifier, à accepter, à comprendre. Et moi, le déclic, vraiment, je pense que le vrai déclic, c'est le jour où on m'a présenté le concept du zèbre. Donc, ouais. Comment il s'appelle Fachin, la Anne-Sophie.
Jeanne-Sio Fachin, c'est ça?
Oui, voilà.
C'est ça. Ouais, ouais, c'est elle qui a fait le livre Trop intelligent pour être heureux.
Voilà.
Qui a été une révélation pour beaucoup de personnes d'ailleurs. Et qui est quelqu'un qui a amené le sujet de façon très intelligente, très douce, et qui n'a pas fait une espèce de, comment dire, de caricature du zèbre, ouais, comme on en voit beaucoup maintenant, malheureusement, avec d'autres personnes. Mais.
Ouais. Donc ça a été ça. C'est le jour où on m'a parlé du zèbre. Donc en fait, on m'en a parlé il y a. C'était en 2003, en 2013, je crois, c'est à peu près 5 ans. À peu près 5 ans, voilà, on m'a présenté le concept du zèbre et je me suis vachement identifié là-dessus. Et ça m'a aidé aussi à un peu faire la paix, j'ai envie de dire. À dire, ok, bah, en fait, ça va, c'est cool, je suis normal. Enfin, je suis dans ma catégorie de normalité, on va dire, mais ça va. Et ouais, je pense que la première chose, ouais, c'est de s'accepter. Je veux dire, c'est pas parce qu'on part dans tous les sens, parce que tu vis forcément ça dans ton entourage ou forcément d'un. Quand tes potes qui sont pas comme toi, entre guillemets, et qui te disent « Ah, mais c'est bon, laisse tomber, il est encore parti dans son délire, tu vas voir, dans 3 mois, il va passer à autre chose. » Et ça, quand tu entendais ça, vraiment, tu le prenais pour... pas pour une attaque, mais c'était vexant, tu sais, c'est blessant de dire « Bah, ouais, bah, excusez-moi les gars d'avoir envie de m'intéresser à des trucs, quoi, mais... » et c'est là où, à un moment, t'as aussi une rupture qui se fait dans ton entourage ou... T'as ceux qui vont te suivre, t'as ceux qui vont être comme toi, t'as ceux qui vont te suivre ou du moins ceux qui vont te comprendre, t'as ceux qui vont pas se foutre de ta gueule parce que le terme est un peu fort, mais qui colleront pas, qui disent mais attends, mais encore tu pars sur un truc, putain, il y a 3 mois tu me disais que tu voulais faire ça et là maintenant t'es là-dessus et ça va être quoi dans 6 mois, dans 1 an? Je dis bah j'en sais rien moi, je sais pas. Et t'as le sentiment que c'est une lutte, c'est un combat, c'est devoir se justifier. Au bout d'un moment, t'as envie de juste dire, bah écoutez, je vous emmerde, je fais un peu ce que je veux, quoi. Et j'arrête de me justifier, j'ai rien à prouver à personne, je le fais parce que je veux le faire, je me fais plaisir, basta. Après, ça me coûte, ça me rapporte, en fait, je m'en fous, je veux que ça me satisfasse. C'est surtout ça le truc. Et je pense que c'est. Oui, c'est un coup de maturité, un coup de prise de conscience, un coup de lâcher prise. La notion de lâcher prise est très importante pour moi. C'est vraiment ça. Lâcher prise et pour ça, ben, accepter aussi de sortir un peu de sa zone de confort et que ce soit dans son confort matériel ou que ce soit dans ses convictions, dans ses relations. À un moment aussi, voilà, lâcher un peu tout ça et au final se dire que jamais rien en fait n'est fixe, n'est figé, n'est acquis. Tout peut bouger, tout peut évoluer et au final ben quand tu laisses faire les choses ben c'est quoi après tu surfes dessus quoi. Ma vie ça a toujours été ça, j'ai toujours surfé, j'ai pas cherché à lutter et je laisse faire les choses et les choses elles se font naturellement, elles se font si elles doivent se faire et si ça doit se faire ça se fait pas et il n'y a pas besoin de lutter et, moi je pense que c'est surtout ça, je crois beaucoup les lois de l'attraction. Pense positif, tu arriveras du positif. Si tu as envie de changement, le changement, il tombe à toi. Là, ça fait quelques temps que je me dis au boulot, bah, je ne sais pas trop, machin, là, je suis en train de faire le tour, etc., etc. 2 jours après, j'ai 3 propositions, hein, qui me propose le Canada, qui me propose le machin. Ah ouais, cool. Enfin, tu vois, c'est être à l'écoute aussi. Il faut regarder autour de soi. Il faut pas être focalisé, arrêter sur, enfin être sur ses idées arrêtées, mais ouais, voilà, être à l'écoute, regarder, observer, prendre un peu de recul. Voilà, je pense que tout ça, voilà, c'est lié peut-être à la notion de sagesse. Alors peut-être que le fait d'enseigner les arts martiaux, etc., c'est aussi parce que du coup, je suis dans cette mentalité-là, je sais pas. Mais ouais, je pense qu'il y a une grosse part de ça, de prise de conscience, d'acceptation, de sagesse, de lâcher prise, de maturité, de réflexion. Ouais, c'est un mélange d'un peu tout ça.
Comment tu gères aujourd'hui l'incompréhension qu'il peut y avoir autour de toi, quand on se demande pourquoi tu vas à droite, pourquoi tu vas à gauche comme ça, pourquoi tu changes de métier tout d'un coup alors que tu as l'impression d'avoir un métier qui est confortable? Comment toi tu réponds à ça?
J'ai envie de dire, en fait, je réponds plus. Soit je réponds plus, soit tout simplement on ne pose plus la question. C'est-à-dire que mon entourage a pris conscience au final que j'étais comme ça. Ils savent très bien que moi, tous les 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, je change de boulot parce que sinon je me fais chier de toute façon. Donc c'est rentré dans les mœurs, on va dire. Et s'il y en a que voilà qui ne collent pas au truc, ou je lâche l'affaire. Et c'est dur à dire, mais j'ai pris un moment aussi la décision de me détacher de certains amis, etc., parce que je suis quelqu'un de très positif, je vois toujours le positif partout, et ça c'est une déformation professionnelle, vous me direz, vous êtes bien placé pour savoir de quoi je parle, mais surtout en étant comme ça, tu n'arrives pas. Au bout d'un moment, tu n'arrives plus en fait à supporter les gens négatifs autour de toi. Et tu as besoin d'être entouré de positifs et donc de t'éloigner, de prendre des distances. Du coup, voilà, à un moment aussi, j'ai dû faire des choix comme ça. Donc souvent, les questions comme tu dis, pourquoi tu changes encore, etc., soit c'est une personne bienveillante, auquel cas c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment, etc. Et donc du coup, tu sais que tu vas pouvoir partager, tu vas pouvoir avoir un échange constructif avec cette personne, etc. Soit c'est quelqu'un au contraire par contre qui émane quelque chose de plus négatif, auquel cas tu as dit écoute, si ça t'emmerde ou si c'est pour me juger ou autre, voilà, salut, allez, ciao. J'ai pris beaucoup beaucoup de distance avec des amis qui étaient pourtant vraiment mes amis du quotidien il y a un peu plus de 2 ans je crois maintenant. Justement parce que j'étais fatigué de leur négativité, de le fait justement de ces moqueries. T'as arrêté la musique, ça y est, tu mets la photo. Ouais, tu vas voir, dans 6 mois, ça va te passer, tu vas te mettre autre chose. Et c'est vrai, je suis passé à la cuisine, après je suis passé à la moto. Mais, et alors, où est le mal? Je me sens plus, j'ai plus le sentiment de cette fierté, de cet accomplissement, de me dire au contraire, j'ai eu envie de vivre des trucs, je les ai vécus, je suis à fond. Moi, les gars, votre vie, vous faites toujours la même chose, vous ne voulez pas sortir de vos sentiers battus, machin, etc. Franchement, je ne vous envie pas, quoi. Donc, vous me posez cette question, j'ai plutôt envie de vous la retourner, les gars. Ça ne te fait pas chier de faire la même chose depuis toujours et de jamais te remettre en question?
Et justement, le fait de faire toutes ces activités, tout ça, à chaque fois que quand tu démarres une nouvelle activité, tu as une technique d'apprentissage en particulier?
Je suis quelqu'un de très scolaire, c'est-à-dire que quand je me lance dans un sujet, déjà, je potasse le sujet à fond, mais vraiment à fond. Vraiment la théorie, les bouquins, les conférences, les machins, etc. Vraiment, je m'imprègne à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quand je me suis lancé dans la cuisine, tu verrais la gueule de ma cuisine, j'ai des bouquins dans tous les sens. Enfin, c'est du grand délire. J'investis énormément, que ce soit du temps, de l'argent. Donc là, je parle de la cuisine. Ça a été pareil pour la moto, pour la guitare, pour la photo. J'ai acheté des trucs, etc. Donc, ça m'a coûté quand même beaucoup d'argent. Mais... c'est pas avec regret, c'est pas un investissement, du moins un investissement à court terme, je sais pas, c'est je me paye un loisir, quelqu'un va dépenser par exemple, je comprendrais pas quelqu'un qui va mettre 30 ou 50 euros par mois pour aller dans une salle de sport alors qu'au final de prendre des pompes et aller faire un footing dans la forêt, ça te coûte que dalle. D'un autre côté, il va pas comprendre que moi je vais vouloir mettre j'ai foutu peut-être 2000 euros 2500 euros de couteau juste parce que j'avais envie de faire la cuisine, tu vois, et je pouvais me le permettre, je l'ai fait. Et les gens disent, putain, mais il est taré, quoi. Autant... ben ouais, mais comment je fais pour couper un filet de poisson fumé si j'ai juste un couteau de chef ou un couteau pour sortir de la viande? C'est pas possible. Donc, il me faut mon couteau. Et donc j'investis beaucoup. Et donc, ça me permet, en investissant donc soit dans des bouquins ou dans de la théorie ou dans des cours de une journée de circuit par exemple pour la moto, que ce soit ou alors une formation tout un week-end par exemple pour le karaté ou une séance de studio pour la musique ou autre, fait que du coup j'apprends beaucoup, donc je m'investis beaucoup, etc. Et après, une fois que les connaissances elles sont là, elles sont acquises, bah voir qu'est-ce que j'en fais, comment je les exploite, comment je peux en tirer quelque chose, et surtout dans quel but. Si c'est uniquement personnel, mais en fait, ça reste jamais personnel. T'as toujours envie de le partager. Tu veux toujours le partager, que ce soit en l'enseignant à d'autres, que ce soit juste en le montrant ou en faisant profiter, ou peu importe, quelle que soit la thématique. L'apprentissage de ces nouvelles méthodes, voilà, se fait par cet investissement, cet objectif, cette notion de partage avant tout. Et je pense aussi un point qui est très très important pour moi, ne pas avoir peur de l'échec. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Et il ne faut pas avoir peur de faire des échecs. Un jour, je regardais un manga que j'aime beaucoup, Food Wars, et il faisait un steak, le steak chaliapin. J'ai vu ça, j'ai dit « Ah, c'est trop bon, je veux le faire. » Le lendemain matin, je vais acheter des courses pour faire ce steak chaliapin, machin, les oignons, le machin, etc. Je le fais tout seul, c'était une tuerie. Franchement, c'était une tuerie, je me suis régalé, c'était un truc de fou, etc. Et un jour, je veux le faire pour ma copine. Et en fait, bah, ça a été un carnage complet. J'étais dégoûté. Mais après, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est, au moins, je sais ce qui va, ce qui va pas, etc. Et pas grave, on passe à autre chose. L'échec, je pense que de toute façon, on ne peut pas apprendre et donc évoluer si on ne fait que réussir. Parce que si on ne fait que réussir, au final, on va faire que reproduire les mêmes choses. Parce que forcément, ça marche. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait différemment. Rappelle-toi la phrase de Gérard Darmon dans la série Mission Cléopâtre. On a toujours fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ferait différemment? Voilà, tandis que quand tu te plantes, là tu te dis j'ai chié un truc quelque part. Donc du coup, je prends les expériences, les retours, j'y réfléchis, etc., etc. Pour cette fois-ci, essayer de faire en sorte que ça marche mieux. Parce que ou alors si je continue à m'obstiner, Einstein il disait il est utopique de vouloir espérer des résultats différents en reproduisant toujours les mêmes choses, enfin un truc du genre. Voilà, si tu fais une connerie en faisant comme ça, si tu continues à faire comme ça, tu ne feras que des conneries. Donc au final, faut pas avoir peur de l'échec. Au contraire, c'est en se plantant qu'on va découvrir des choses. Sinon, on n'aurait pas la pénicilline aujourd'hui, tu vois.
Et quel est justement l'échec qui t'a appris le plus? Est-ce qu'il y a un échec en particulier qui t'a fait le plus avancer en fait, dans ta carrière, ou qui t'a appris le plus de choses? Sur ta personnalité ou sur ton travail?
Très sincèrement, j'aurais du mal en fait à te dire un échec. Je pourrais te dire pour chaque thématique, soit je sais pas, la cuisine, la moto, le machin, le ci, le ça, des petites expériences de trucs où j'ai pas échoué, parce que je te dis, j'aime pas ce terme, mais où j'ai appris dans la douleur, on va dire. J'en ai eu, mais des échecs, je considère pas en avoir eu, parce que considérer un échec au sens majeur, hein, pas j'ai foiré une recette, ça on s'en fout, mais considérer ça, c'est avoir des regrets, c'est regarder dans le passé, avoir des regrets, etc. Et je ne regrette jamais rien, et je ne regarde jamais dans le passé. Non, là, franchement, je ne saurais pas te répondre. Un échec, non, là, de suite, je ne saurais pas t'en dire. Parce que un échec, je te dis, t'apporte une expérience, et donc, tu en retires quelque chose de bénéfique.
C'est ça, c'est peut-être parce que tu as ce positivisme, justement, qui te fait voir toutes ces expériences comme quelque chose de bien. Ma question, c'était plutôt... Est-ce qu'il y a peut-être un changement de carrière que tu as fait, un métier que tu as fait, que tu peux considérer, que quelqu'un pourrait considérer à l'extérieur comme un échec, mais pourtant tu as fait vraiment rendre compte que, ok, je fonctionne.
Ah ouais, ouais. L'exemple le plus flagrant dans mon parcours professionnel, c'est quand je suis devant un employeur, c'est la ligne qui ressort toujours. C'est vous avez fait un bac électronique, vous avez fait un DUT réseau, vous avez fait un CIS, vous avez fait un SAS, vous avez bossé, vous avez été admin réseau à tel endroit, vous avez fait du réseau du système, de l'informatique, etc. Et là, pendant 2 ans, vous avez été organisateur de concerts et vous avez fait des sushis. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Et là, je leur explique pour des raisons personnelles, etc. Alors, toujours un peu mal à l'aise, mais la réalité, au gars, j'ai envie de lui dire, j'ai dit, écoutez, on me proposait des boulots de merde et un jour, on m'a fait kiffer en me disant, ça ne dirait pas de faire des sushis, de faire des soirées, d'organiser des concerts. Bah ouais, vas-y, go. Tu peux pas répondre ça à un employeur, surtout, en plus, c'est pour un truc sérieux, etc. Évidemment, tu peux pas. Mais effectivement, si un employeur, vraiment, tu prends un RH costard cravate qui va regarder mon CV, il va dire, non, mais c'est quoi cette ligne-là? Et ben, ouais, les gens, ils vont me dire ça. Moi, je vais dire, ça m'a appris, mine de rien, ça m'a appris. Le fait d'avoir fait des sushis, ça m'a appris l'aspect méthodique, l'aspect sérieux, le côté répétitif et perfectionnement. Parce que mine de rien, faire des sushis, ça a beau être une boulette de riz, à mettre de poisson par-dessus, une formation, c'est 13 ans de vrai sushi. Donc, je ne suis pas maître sushi, mais le fait d'avoir appris ça, ça m'a appris voilà, cette notion, cette patience, etc. Ce qui fait qu'à aujourd'hui, dans ma petite cuisine de 3 mètres carrés, je suis capable de te sortir un repas pour 15 personnes parce que quand je faisais les sushis, j'étais dans une caravane. Et j'ai appris à tenir un commerce dans une caravane et à nourrir les gens en travaillant sur un plan de travail de 50 cm sur 1m30. Ça m'a appris ça. L'organisation de concert, qu'est-ce que ça vient foutre de l'organisation de concert sur un CV d'un informaticien? Eh bien, mine de rien, ça a été ma première expérience au final de chef d'équipe, de gestion de projet. Parce que quand tu es régisseur, quand tu dois piloter le groupe qui s'installe, qui va à tel endroit, après le régisseur musique qui a besoin de sa sono, ah merde, la sono on l'a pas, bah, va chercher les micros, etc. Mais attends, est-ce qu'on a imputé ça dans la ligne budgétaire? Ah, t'as pensé à appeler la com parce qu'il faut que la mairie nous amène le... T'as beaucoup de trucs à gérer, et ben ça boîte de la musique. Au final, t'as un concert de reggae avec des fumeurs de pète, etc. Mine de rien, derrière, c'est une expérience que je serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu ça. Donc, tout ce que les gens vont considérer comme un échec ou un zèbre au milieu de la clairière, quoi, c'est ça. Ça va être une force. Tout échec de... Il n'y a pas d'échec de parcours, en fait, au final. Il y a juste des expériences. Des expériences qui iront peut-être dans le sens des objectifs que tu t'étais donné au début. Mais d'un autre côté, si tu gardes ton objectif du début, effectivement, en direction ligne de conduite, sans jamais te remettre en question, oui, tu arriveras peut-être là où tu voudras aller ou pas. Parce que franchement, des gens qui ont fait le parcours qu'ils rêvaient d'avoir, moi, j'en connais pas. Mais le fait d'accepter des expériences au fil de l'eau et de te laisser divaguer, etc., etc., ça te permet aussi de tirer des expériences que tu n'aurais pas eues si tu t'en étais resté vraiment sur la roadmap que tu avais et tu ne serais pas là où tu en es. C'est comme quand tu fais un road trip, tu dis je vais d'un point A à un point B, on va prendre telle route. Ok, pof, on prend telle route. Ok, bon, bah, tu as vu ta route. Par contre, si tu dis écoute, je sais que je vais aller là, je suis là et je vais aller vers là-bas, quelle route on prend? J'en sais rien, on verra bien. Bah, c'est comme ça que tu découvres des super trucs. Ah, des fois, tu vas galérer, tu vas te retrouver enlisé dans des trucs du n'importe quoi, etc. Mais au moins, voilà, tu auras appris que bah, tu vois, quand le chemin il commence à être tout moche, il faut peut-être pas aller dedans. Ça, si tu n'y vas pas, tu ne le sais pas. Ou peut-être qu'au contraire, le chemin tout moche, il a l'air un peu chiant là maintenant, c'est chaud d'y aller, mais en fait, tu te rends compte que derrière, tu tombes sur un paysage magnifique. Si tu n'y étais pas allé, si tu en étais resté à la roadmap que tu t'étais fixée, tu ne l'aurais jamais vécu.
Oui, mais c'est tout à fait juste. C'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on fait de magnifiques découvertes. Dans tout ton parcours, nous, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Et si oui, comment tu le gères?
Bah, si, parce que je connais pas ce terme, mais si c'est ce que je pense, ça me rappelle en fait une anecdote. Quand j'étais, donc on revient en 2003, je viens de finir mes études, je viens de finir mon diplôme, je suis en stage dans une structure associative, après je vais bosser un peu à droite à gauche, et quelques mois plus tard, je suis employé dans cette même structure. Et vu que c'est une structure associative, on n'a pas de rond et on est jeune, on est dynamique, on est pompélope, on prenait plein de stagiaires. À un moment, donc ça faisait genre même pas un an ou deux, je bossais à tout casser, je me suis retrouvé responsable de 16 stagiaires en simultané. 16. Et toujours est-il qu'à un moment, il y a un stagiaire qui m'a posé une question toute simple. Il m'a dit, mais comment on fait pour devenir professionnel? Et là, j'ai fait, waouh, attends. C'est vrai que lui, il est étudiant. Moi, au final, je suis professionnel parce que oui, je suis salarié dans cette entreprise, je travaille, etc. Je les ai en tutelle sous moi. Donc, effectivement, sa question est légitime. Comment on fait pour devenir professionnel? La meilleure réponse que j'ai pu lui donner, c'est de dire, bah, écoute, j'ai commencé à faire semblant. Et à force de faire semblant, je le suis devenu. J'ai regardé comment ils faisaient les autres. J'essayais. Je regardais, il fait comme ça. Alors, attends, je vais faire comme ça. Alors, c'est applicable dans n'importe quel corps de métier, peu importe, mais... Et au final, en faisant semblant, je suis devenu qui j'étais. Et après, donc, je ne sais pas si c'est ça que tu entends par imposteur, mais après, j'ai eu la notion du coup de caméléon. Je me suis vraiment rendu compte que quel que soit le milieu dans lequel tu me mettais, ça m'est déjà arrivé de faire des représentations, des conférences en mode costard-cravate devant des hauts dirigeants, à rencontrer même des ministres, à être envoyé par le ministère pour des délégations à l'étranger, pour présenter des projets écologiques, etc. Et deux jours après, on me retrouvait en mode chéché, une clope au bec dans la forêt, en train de faire cucu et de parler aux enceintes. Tu vois, enfin, il y a vraiment cette notion d'hyper-adaptabilité. Voilà. Tu peux me mettre dans n'importe quel milieu, allez, on va voir comment ils font. Il y a ce côté mimétisme, mais juste parce qu'en fait, tu trouves ça intéressant. Si ça ne te plaît pas, tu n'y vas pas, évidemment. Et si ça te plaît, tu y vas. Alors, je ne sais pas si c'est ça, parce que la notion de l'imposteur, comme tu disais, je n'en ai pas entendu parler, donc je ne sais pas exactement si c'est ça. Mais ça m'a rappelé ça, en tout cas.
Mais c'est intéressant parce que, justement, le syndrome de l'imposteur, le principe, c'est, en fait, c'est l'idée de ne pas se sentir légitime. Dans le sens, tu es chef de projet, quand on va dire, voilà, il est chef de projet, il y a quelque chose qui vient en toi en disant, oui, mais pas trop, peut-être que... Parce qu'il manque une légitimité qui peut être soit donnée par un diplôme, soit donnée par quelqu'un qui officiellement te donne ce poste et tout. Et souvent, émotionnellement parlant, tu vois, tu me dis cette anecdote sur ce stagiaire et tout, émotionnellement parlant, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait paniquer ou quelque chose... Tu vois, le syndrome d'imposteur, il est un petit peu comme ça. Il arrive en te disant, mais en fait, t'es pas à ta place. Comme quelqu'un qui te susurre à l'oreille une vilaine personne...
Alors ça, très franchement, je me le dis à chaque fois. Et là, ça m'est encore arrivé, là, il n'y a pas longtemps, on m'a dit, bah, Taïan, tu ne veux pas prendre le rôle de Scrum Master sur l'équipe machin. J'ai dit, mais attends, mais je ne sais pas faire, je ne suis pas fait, etc., etc. Enfin, tu te remets vraiment en question. Et à chaque fois, tu te dis, mais en fait, non, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, pourquoi on me propose ça? Ou moi, qu'est-ce que je fous là, etc. C'est pas ma place et tout ça. En fait, ce que j'ai envie de dire, oui, donc du coup, ça, oui, je le ressens, effectivement. Quoi que ce soit, je le ressens. D'un autre côté, là par exemple, je vais parler dans le cadre de propositions, que ce soit professionnelles ou autres. Voilà, on me propose d'être Scrum Master sur un truc, on me propose d'être ci, on me propose d'être ça. Effectivement, le premier réflexe, c'est oh mon Dieu, mais pourquoi moi je ne sais pas faire, je ne vais pas y arriver, mon Dieu, mais il va falloir que je me forme, mais je ne vais jamais. Et oh, si on te le propose, c'est parce qu'on a déjà décelé en toi que tu pourras en être capable. Après, personne n'est parfait. Faut pas oublier qu'en France, je crois que c'est le comment ça s'appelle, c'est pas le principe de Peter, je crois un truc comme ça, où on te fait toujours progresser, évoluer à un poste où tu deviens moins performant, un truc comme ça. En gros, à partir du moment où tu es bon quelque part, on cherchera à te mettre un niveau au-dessus où tu seras forcément moins bon jusqu'à ce que tu deviennes bon, te mettre un niveau au-dessus, etc. Et en fait, c'est normal. Faut accepter. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la confiance en soi, accepter de faire des erreurs. Donc, se sentir à une place illégitime, de dire ah mon Dieu, mais j'ai pas le niveau, j'ai machin, etc., etc. Et ben, c'est faut accepter aussi que c'est comme ça justement qu'on va pouvoir progresser. On en revient à l'histoire de la zone de confort, etc., etc. Et là, je pense que c'est lié à ce que je disais au début sur la confiance en soi, etc., etc. Donc, je le comprends, je le conçois parce que je le ressens, donc à chaque fois. Mais par contre, je lutte pas contre, je l'accepte et mais comment dire, et je fais fi de ça, je le laisse à part, je fais de l'abnégation dessus, tu vois.
Ah oui, je vois. Est-ce que tu pourrais dire qu'au niveau de ton apprentissage des arts martiaux, parce qu'il y a quand même une philosophie de vie qui est très très importante dans les arts martiaux, et je pense que quand on arrive à un niveau comme le tien, on en est quand même emprunt, ça t'a apporté de l'aide au quotidien dans tous tes événements?
Ouais, la patience. Avant tout, la patience. La patience. Et ça, c'est quelque chose que je me rends compte qui est aussi lié à la génération, parce que j'ai appris le karaté, j'ai commencé, j'avais 9 ans. Je me rappelle qu'à l'époque, un coup de poing pour qu'il soit parfait, il fallait que je le répète pendant une heure. S'il fallait pendant une heure, je ne ferais qu'un coup de poing jusqu'à ce qu'il soit parfait. Aujourd'hui, tu fais ça à un gamin, mais des coups de poing, il en fait 10, il faut qu'il passe à autre chose, sinon il pète un câble. Il n'y arrive plus, il n'y arrive plus. Il n'y a plus la patience, il n'y a plus le même rapport avec l'autorité également. Il faut reconnaître aussi que la partie arts martiaux, il y a aussi cette notion d'autorité parce que tu es aussi soumis, c'est pas péjoratif, mais à ton sensei, à ton maître, tu lui dois le respect, l'obéissance, etc. C'est quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire ça, ouais, effectivement, la notion de patience, le fait d'accepter que c'est aussi le laisser le temps au temps et à force de travail, de volonté, etc. Mais là, c'est carrément plus carrément dans la philosophie asiatique en général que tu vas retrouver ça. D'accepter voilà que le faut laisser le temps faire les choses tout ça ouais le karaté je pense m'a appris ça la patience et après sur un aspect plus personnel la gestion de la douleur avec des problèmes de santé que j'ai etc.
Tout à l'heure tu nous as parlé de l'importance de s'accorder un moment pour ne rien faire
grave
ouais est-ce que tu peux revenir dessus qu'est-ce que ça t'apporte
je pense que on est assoiffé de connaître, d'apprendre, d'expérimenter, de vivre des choses en général. Et si on se laisse pas le temps aussi de digérer ces choses-là, au bout d'un moment, on va faire une overdose. Et le fait de s'accorder ces instants, alors après, parce que je suis très porté, la nature, machin, une petite rivière, les oiseaux, etc. Le fait de s'accorder ces moments, ces pauses, alors pour moi, ça va être ça, pour d'autres, ça va être, je sais pas, de partir faire de la plongée sous-marine ou d'autres, de sauter d'un avion en parachute, j'en sais rien. Mais le fait de s'accorder des instants justement comme ça, à rien faire, juste à décompresser, à faire le vide, c'est important. C'est important parce que, mine de rien, le cerveau, c'est une machine. Une machine, à force de trop l'utiliser, ça chauffe. Et quand ça chauffe trop, normalement, ça sert. Des fois, il faut aussi accepter que faut laisser un peu reposer la machine, quoi. Tu peux être un assoiffé de sport et un hyper athlète de tout ce que tu veux. Tout athlète te le dira, à un moment, les muscles, il faut aussi se les laisser reposer. C'est obligatoire. Sinon, tu fais un claquage. Le cerveau, c'est pareil. Et ce côté nature détente est donc très lié à la philosophie zen, etc. Mais c'est un besoin que j'ai dû m'imposer. Parce qu'au début, tu te dis, je fous de quoi, moi, assis dans l'herbe pendant une heure à regarder les oiseaux? Bah, médite. Tout simplement. C'est quand, vraiment, et là je pose la question à toutes les personnes qui nous écouteront, demandez-vous sérieusement, c'est quand la dernière fois que vous avez passé ne serait-ce que 10 minutes à rien faire? Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est pas de télé, pas de musique, pas de bouquin, juste rien, être assis à ne rien faire. Sincèrement, quand? Et je dis juste 10 minutes. Alors une heure ou une journée ou autre, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. Mais voilà, c'est quand la dernière fois que vous avez rien fait? Eh bien, franchement, essayez. La méditation, c'est ça. Après, j'ai été obligé d'apprendre aussi ça. Donc, moi, c'est plus ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. De vraiment prendre conscience de tout ce qui m'arrive, de mon entourage, de mon corps, de ce qui me traverse, etc. À cause de mes problèmes de santé. Mais j'ai été obligé de le faire. Mais ça fait vraiment du bien. Ça aide à calmer aussi un peu la machine. Juste rien faire. Se poser comme ça. C'est la petite soupape de décompression. Alors, je te dis, moi, c'est ça. Pour d'autres, ce sera peut-être autre chose. Mais c'est important de se l'accorder. Et voilà, moi, je conseillerais aux gens d'essayer ça. Je crois qu'il y a une application sur iPhone qui s'appelle Petit Bambou, je crois, qui oui. T'accompagne sur de la méditation. C'est juste, voilà, tu 10 minutes. Tu prends 10 minutes de la journée, c'est rien, 10 minutes. 10 minutes, on peut se l'accorder. C'est à essayer.
Ben moi, je te rejoins totalement sur ce discours, étant donné que c'est des choses que je pratique aussi. Et c'est vrai qu'actuellement, on se rend compte aussi des bénéfices de la méditation. Et surtout sur des cerveaux qui sont en ébullition, dans la curiosité et autre chose, l'importance de pouvoir faire reposer le cerveau, ça va augmenter la curiosité, ça va augmenter les capacités créatives et autre chose. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je rejoins tout à fait ton discours. Dis-moi, est-ce que tu as une routine journalière ou c'est quelque chose qui change tout le temps?
Pas vraiment de routine journalière. Je me laisse vraiment porter par les envies, par le fil de l'eau. Là, en ce moment, par exemple, j'ai un boulot en moto, il fait beau, il fait bleu. Je vais peut-être rentrer en faisant la route du bord de mer, des trucs comme ça. Non, j'ai pas vraiment de routine. Ou alors, peut-être, mais ça, c'est plus lié justement à ma profession. Voilà, de par mon boulot, je suis obligé de faire la veille professionnelle. Et donc, tous les matins, et voire même plusieurs fois dans la journée, je me suis abonné sur plein de flux RSS qui sont propres à mon activité. Et le matin, déjà, vous savez, je ne suis pas trop du matin, donc je me lève, il me faut le café, il me faut bien une heure pour me sortir la tête du cul, etc. Et ben, je me pose, je bois mon café, je lis mes actus, et ouais, ça, c'est un truc voilà, que je fais régulièrement. Alors, ce n'est pas vraiment un besoin. Au début, c'était plus une obligation, parce que je venais d'arriver dans le monde, dans le milieu professionnel, machin, je connais rien, il a fallu que je le fasse par obligation. Cette obligation est devenue du coup une habitude. Et c'est vrai que quand ça fait plus d'un jour que j'ai pas checké mon flux RSS, je dis merde, on en est où, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc c'est vrai que j'ai besoin de ça aussi. Mais après, sinon, une routine, tous les soirs, il me faut minimum une demi-heure à une heure de cuisine. Même si j'ai pas faim, il faut que je cuisine. Sinon, je suis malheureux.
Ok.
J'ai besoin de cuisiner. Et très souvent, je cuisine. Et une fois que j'ai cuisiné ce que je voulais cuisiner, bah, je fous ça dans un tupperware, je mets ça dans le congèle.
D'accord.
Mais ça me fait du bien. Ça me reconnecte aussi un peu avec, avec la nature, avec les produits, la terre, etc. Je suis vachement en ce moment dans une démarche de une réflexion autour, bah justement autour du bio, autour du local. Alors, je ne vais pas rentrer dans le mode vegan, etc. J'aime trop la bidoche pour ça. Mais déjà, par exemple, le bio, qu'est-ce que ça va me porter ? En ce moment, je suis pas mal en contact avec un ancien de chez nous, Stéphane Ramier, qui est maintenant qui fait de la médecine traditionnelle chinoise et qui m'a apporté énormément là-dessus. Et je suis pas mal justement sur l'étude des aliments, des saisons, de quoi mon corps a besoin à l'instant T, etc., etc. Et ouais, être plus dans le produit brut. Tu me verras plus jamais acheter des plats tout faits, des plats surgelés ou même des conserves, des trucs comme ça. Par contre, quasiment tous les jours, ouais, quasiment au minimum un jour sur deux, je m'arrête pour aller acheter un petit produit frais au primeur du coin ou un truc comme ça. Et je regarde ce qu'il y a à l'étal. Ça. Bah tiens, je vais me cuisiner ça avec. Ou je vais chez grand frère. Alors là, ça, par contre, c'est mon piège. Et autant, il va y avoir des personnes, des filles, des mecs, peu importe, s'en fout, qui va rentrer dans un magasin de chaussures et qui va péter un câble. Petite dédicace à Anto, s'il nous écoute, avec sa collection de baskets. Moi, par exemple, ça va être grand frais. Tu me mets chez grand frais, mais je deviens fou. Leurs étals, ils sont tellement magnifiques. Leurs légumes, ils sont tellement beaux, tellement variés que je deviens fou là-dedans. Et je vais être un acheteur-cuisineur compulsif.
Ouais, intéressant. Je comprends ça. Maintenant, je cultive moi-même enfin, certains fruits et certaines herbes aromatiques. Et c'est vrai que je prends un plaisir quand je rentre à la fin de ma journée de les contempler, ce qui me repose, et après de les cuisiner dans un second temps.
C'est de la fierté, c'est la fierté de se dire c'est moi qui ai fait pousser. Moi, à une époque, j'avais fait pousser des fraises, des maras, des bois, mais j'étais comme un ouf, c'était trop bon. Bon, le pied, je l'ai tué 2 semaines après, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'étais super fier, j'étais super content. C'est tout bête, c'est tout con, mais le fait d'aller au marché, d'acheter tes légumes et de rentrer à la maison et de cuisiner tes légumes, même si tu te fais juste une finale, une ratatouille, on fait pas du top chef, on s'en fout, mais c'est de la fierté. Il y a pas très longtemps, j'ai invité une amie à manger à la maison et je voulais absolument refaire une recette que j'avais vue dans Norbert Commis d'Office, et c'était des tagliatelles aux fruits de mer marquées à un jus de persil et de vin blanc. Enfin, il y avait un peu plein de trucs comme ça. J'ai voulu absolument tout faire du début à la fin, à la main, y compris la pâte. Donc, j'ai pris ma farine, j'ai pris mes œufs, j'ai pris mon lamis noir, mon machin. J'ai passé 2 heures dessus. J'étais en nage à la fin, mais à la fin, tu dis putain, c'est cool, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Et au final, ça m'a pris. Ah ouais, j'ai fait la pâte à la main. Ça prend une demi-heure. D'autre côté, qu'est-ce que c'est une demi-heure ? Vous savez que statistiquement, un Français passe 3h47 par jour devant sa télé. 3h47 devant sa télé. Ça m'a rendu fou quand j'ai vu ça. 3h47 devant sa télé. Et après, on va me dire ah, et cuisiner, j'ai pas le temps. Fous pas de ma gueule. Non, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu veux pas prendre le temps parce que tu veux faire autre chose. Alors, il y en a qui vont avoir des activités, des machins, décider ça, qui peut peut-être justifier ça. Peut-être que la personne est très prise, je peux l'entendre. Par contre, commence pas à me raconter que t'as regardé Love Story hier soir, quoi, parce que là, je vais t'en claquer une. C'est pas possible. Éteignez votre télé, putain, les gars, éteignez votre télé. Moi, quand j'ai acheté mon appart, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai coupé à coup de sécateur le câble qui arrivait de l'antenne.
Ah oui, quand même.
Je me suis pris l'abonnement Red by SFR à 10€ par mois pour être sûr de ne pas avoir l'option télé. Je déteste la télé, j'en peux plus. Arrêtez de regarder, éteignez vos télés. Ou alors regardez mais des trucs intéressants, téléchargez-vous des documentaires, abonnez-vous à je sais pas les chaînes TEDx sur YouTube, ils ont des trucs magnifiques à regarder, des super documentaires, enfin. Mais voilà, putain, quitte à regarder des trucs, parce que je vais pas être hypocrite non plus, bien sûr, je regarde des choses, mais des trucs que je choisis moi. Je n'ai pas vu une pub entre deux films ou deux séries, peu importe, depuis peut-être 5 ou 10 ans, j'en sais rien. Parce que je choisis ce que je veux regarder. C'est moi qui choisis et je me laisse pas hypnotiser parce qu'il faut regarder. C'est un truc tout con, mais quand j'étais gamin, j'avais dans ma chambre un mur immense et c'était un poster du Livre de la Jungle. Et je disais toujours, je m'asseyais devant, je regardais ce mur et je le regardais pendant des heures. Et ma mère, elle me disait, mais tu fais quoi là, regarder cette image qui ne bouge pas ? Et à l'époque, je n'avais pas la répartie parce que j'avais, je ne pense même pas la réflexion, mais là maintenant, avec le recul, je lui dis, et vous faites quoi si sur votre canapé, de regarder votre écran là, qui envoie des lumières de toutes les couleurs ? Je dis, au final, et si au final, c'était pas, les rôles n'étaient pas inversés, au final, c'est la nature qui nous regarde et nous, on est le spectacle, on passe pour des cons là, s'activer de nos activités futiles. Et j'ai toujours le Love Story en tête quand je pense à ce genre de choses, quoi, parce que je comprends pas les gens qui regardent ça, les anges de la réalité ou je sais pas quoi. Ils peuvent passer des heures et se passionner de ça. Je crois qu'à une époque, sur Twitter, c'était le hashtag le plus tweeté, les trucs de Love Story ou de réalité ou de anges de la réalité ou de conneries comme ça. Alors, comment les gens peuvent passer autant de temps et je comprends pas. Ça leur apporte quoi. Après, je dis pareil pour le foot. Hein, donc, mais bon, je ne veux pas me faire d'ennemis non plus. Mais voilà, j'ai envie de dire ça. Moi, par exemple, c'est ce côté, la cuisine, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est mes légumes, c'est voilà, mon potager. Après, on n'a pas tous ces moyens d'avoir un petit jardin. Effectivement, moi, si j'avais un peu des ronds, je m'achèterais un petit terrain, une petite maison et j'aurais mon petit potager, mon poulailler. Je me ferais mon omelette avec les œufs de mes poules qui auront mangé les restes de mon repas de la veille, etc. Tu vois, et de vivre un peu en osmose avec tout ça, il faut pouvoir se le permettre. Je ne sais plus qui disait, il faut être riche pour pouvoir vivre pauvrement. Mais juste prendre le temps, on est tous capables. Les gens sont capables d'aller au supermarché pour acheter des trucs. Essayez de regarder chez votre petit primeur du coin et demande-lui qui vous explique. Il dira, mais attends, mais moi, je ne sais pas faire. Justement, va voir un primeur, va voir un cultivateur. Et le gars, il va dire, en ce moment, tu peux manger des asperges, tu peux manger ci, tu peux manger ça. Ah, mais je ne sais pas cuisiner. Il va t'expliquer, il va te dire. Alors, il ne va pas faire de toi un top chef, évidemment, mais à minima, et tu rentres à la maison et tu te fais ta petite poulet d'asperges au jus d'orange. Tiens, vous saviez qu'on peut cuisiner des asperges au jus d'orange? Je vous jure, c'est super bon. Et ça ne te prend pas longtemps. Ça ne te prend pas longtemps. Et au final, le quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure que tu auras passé en cuisine, c'est une putain de dose de satisfaction de manger sain. Ton corps, il va te faire des bisous de l'intérieur et tu auras arrêté de t'abrutir devant je ne sais pas quoi à perdre du temps à rien foutre. Voilà. Là, c'est une de mes routines, justement.
Alors, je te rejoins sur la cuisine parce qu'il y a quelque chose qui est aussi vrai, c'est que la cuisine, comme tu dis, déjà, il y a le plaisir de faire ton plat, mais il y a aussi le simple fait que tu le fais pour toi et tu cuisines quelque chose qui te plaît. Donc, en fait, moi, je l'ai toujours vécu parce que j'adore faire ça et je peux passer 4 heures en cuisine des après-midi, même des dimanches, quand je reçois beaucoup de monde à la maison, on fait des petits barbecues et ce genre de choses, et je peux passer des heures et des heures et des heures à préparer. Et même pendant que les gens sont là, je vais aimer cuisiner parce qu'en fait, déjà, quand il y a du monde, je l'offre, c'est comme si je faisais un cadeau. Et quand je suis seule et que je me fais un petit repas, je pense que je me fais des gros kiffs, moi qui suis une fan de purée, quand je me fais une bonne purée et que je m'assois devant un film que j'ai choisi, que j'ai eu envie de voir et tout, là c'est le Saint Graal. Ma purée est bonne, je me la suis faite pour moi, je me suis fait un cadeau, c'est juste génial. Donc je pense que de toute façon Julien, il est bien placé aussi pour te rejoindre sur le discours vu qu'il adore cuisiner, donc... Nous, à la fin, on fait toujours des petites questions one shot, une petite question qu'on va te poser auxquelles tu vas nous faire des petites réponses rapides.
Je vais essayer.
On va essayer de voir.
Alors, première question, y a-t-il un livre que tu offres régulièrement?
J'aime beaucoup L'art de l'essentiel de Dominique Leroux. Ou alors les 4 accords Toltec. Il y a Ho'oponopono également, une philosophie tahitienne, hawaïenne, je ne sais plus. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est un truc que je dis à toi.
Hawaïenne,
voilà. Et Into the Wild.
Un achat récent de moins de 100 euros qui a eu un impact positif sur toi?
De moins de combien, tu as dit?
Moins de 100 euros.
Moins de 100 euros?
Ouais.
Qui a eu un impact positif sur moi? Moins de 100 euros. Laisse-moi un peu réfléchir. Qu'est-ce que j'ai acheté récemment?
Pas tes couteaux en tout cas.
Non, pas mes couteaux effectivement. Non, je pense que j'ai envie de dire, en ce moment je me suis, alors je sais pas si c'est moins de 100 euros ou pas, mais je me suis lancé à fond dans la domotique. J'ai eu envie de domotiser, je sais pas comment on dit, toute ma maison. Et donc c'est des petits modules, des petits trucs pas chers, mais que tu mets à droite à gauche. Donc maintenant je me tape un kiff à piloter ma clim, à piloter mon radiateur, à piloter mes ampoules, etc. etc. Ça, l'impact que ça a eu, c'est que du coup en fait ma maison répond, du coup mon chez-moi répond exactement à mes besoins, mes attentes telles que je les ai programmées sans que j'ai besoin de m'en soucier. Et c'est, franchement, c'est trop cool.
Une application de téléphone que tu utilises et que tu voudrais conseiller?
Qu'est-ce que j'utilise beaucoup? Yuka. Yuka, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour ça permet de scanner les codes barres des aliments pour te dire ce que tu bouffes, si c'est bien, si c'est pas bien, etc.
Ça, c'est génial. Je l'utilise énormément quand je fais mes courses. Et d'ailleurs, je suis très surprise parfois par les résultats auxquels tu te dis, ça va être vraiment nul, ça va pas être bon. Et puis, il te dit, non, c'est bon, ah bon. Et du coup, ça m'a appris aussi à faire plus attention aux étiquettes et à regarder un petit peu plus. Ouais. Parce que du coup, j'en compare maintenant de temps en temps. Quand je vais prendre deux produits pareils, je vais scanner un qui est un peu moins bon que l'autre. Je vais dire, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi et tout. Donc, ouais.
Et on va terminer par une citation. Est-ce que tu as une citation fétiche ?
Je ne méprise pas mes hommes, mais je préfère la nature. George Gordon Byron.
Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette interview et d'avoir pris le temps. C'était top. Nous, ça nous a vraiment, vraiment fait plaisir de partager ça avec toi.
Bah merci à vous, c'était super cool.
Voilà, merci. Et puis, à bientôt.
Et bah à bientôt.
Voilà, on espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou Apple Podcast, ce qui permettra à d'autres personnes de le découvrir.
Pensez également à vous inscrire à notre newsletter quinzomadaire pour recevoir toutes les deux semaines un court email de 5 inspirations et trouvailles que nous souhaitons partager avec vous.
Et si vous souhaitez nous poser des questions, nous suggérer des sujets abordés ou nous faire un retour, vous pouvez le faire dans les commentaires des notes de cet épisode ou nous envoyer simplement un email sur podcast@cameo.fr.
Allez, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à bientôt pour les prochains épisodes.